Ça va bien? Il était une fois un valeureux héros, amoureux. Quel curieux personnage! Il est très costaud, mais reste très proche de son papa et de sa maman. Il aurait peut-être un côté tanguy. Or, il arriva qu'une belle étrangère lui tapa dans l'œil. Et il voulut absolument l'épouser. Papa et maman n'étaient pas trop d'accord. C'était une étrangère. Mais devant l'insistance du jeune homme, ils finirent par céder. Seulement voilà, les mariages, à cette époque-là, étaient organisés par les parents. C'était une époque bénie. Pardon. J'ai rien dit. Ils s'en furent donc l'accompagner pour faire sa demande. Et l'affaire se traitera en deux voyages. Le premier, pour les présentations et la demande officielle. Voilà. Et le deuxième voyage, pour la noce elle-même. Vous avez deviné de qui il s'agit. Alors, on va chercher son histoire dans le livre des juges. Oui, Samson et Dalila. Pardon. Samson et Dalila, mais il n'y a pas encore question de Dalila ici. On va lire dans le chapitre 14, au début. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère, et dit : J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent : N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis ? Et Samson dit à son père : Prends-la moi pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit du Seigneur saisit Samson et, sans rien avoir à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Je vous ai dit qu'il était costaud, hein ? Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Donc, ils ne devaient pas être toujours ensemble. Hein. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et il se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. C'était mieux quand même. La traçabilité douteuse. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Ici, on appelle ça enterrer sa vie de garçon. Hein ? Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent, « Propose ton énigme et nous t'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas ?» J'arrête là l'histoire. On va maintenant aller dans le Nouveau Testament. Je vous propose une lecture dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, à partir du verset 11. Cependant, Marie, il s'agit de Marie de Magdala, se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » On pourrait même dire « mon maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Merci Seigneur d'être avec nous par ton esprit. Ouvre notre intelligence, que nous entendions ce que tu as à nous dire. Amen. Quelle histoire, vous ne trouvez pas ? Cette histoire de miel. Donc, Samson, papa et maman vont rencontrer la belle Philistine qui a tapé dans l'œil de Samson. Or, avant la présentation, une épreuve inattendue attend notre héros. Arrivé aux vignes de Timna, un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. Et le texte hébreu dit « un lion de lion ». Espèce de superlatif, vous savez, un lion au singulier, de lion au pluriel. Ça souligne l'impressionnant animal, avec toute sa violence, toute son agressivité qui se présente là tout à coup devant Samson. Mais pas de problème. Notre gaillard le tue à main nue. Et s'en va rejoindre ses parents sans se vanter de la chose. C'était normal, la routine. Un lion comme ça, c'est... Repassons par là quelques jours plus tard, pour conclure le mariage, Il fait un détour pour voir ce qu'est devenu ce lion, de chez Lion. Or, il découvre qu'un essaim d'abeilles a colonisé la carcasse du lion. Je ne sais pas combien de temps c'est arrivé après. Raisonnablement, on pourrait se dire que c'est quand même un certain temps, parce que les abeilles, elles ne vont pas faire une ruche au sein de la pourriture, enfin, de la mauvaise odeur, des trucs sanguignolants. Ce n'est pas leur genre, les abeilles. Je ne crois pas. Hein. C'est dommage, il n'est pas là, notre ami apiculteur. Il nous le dirait. Toujours est-il que ce texte est volontairement bizarre. Enfin bref. Donc il découvre cet essaim d'abeilles et elles y ont fait du miel. Donc il y a eu, si c'est en 3-4 jours, c'est un miracle. Franchement, combien de temps les abeilles mettent-elles pour faire du miel? Une saison? Quelques semaines en tout cas. Mais là, il semble que c'est 3-4 jours après. Elles ont fait du miel. Semble-t-il donc en un temps record. C'est une divine surprise. Un signe favorable. Il en prend avec ses mains, ce miel. Essayez de prendre du miel à main nue, dans une ruche. Il en mange, et il en donne à manger à son père et à sa mère, sans leur indiquer la provenance de ce miel. Puis ils ne sont pas très curieux, je trouve, les parents. D'où tu sors ça? D'Intermarché. La chose est si peu banale que notre héros y trouvera matière à s'enrichir aux dépens de ses copains de beuverie venus pour enterrer sa vie de garçon. Il est calculateur quand même. Hein ? Il va leur poser une colle imparable. Et elle est formulée ainsi, on l'a lu, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » La force ou la douceur, c'est-à-dire la force violente, agressive, de cette force violente est sorti le doux, la douceur. Et Samson, on est absolument sûr, ses amis de noces seront bien incapables de décrypter cette énigme. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Mais les choses ne se passeront pas comme prévu. Je ne vais pas épiloguer sur la suite. Vous la connaissez sans doute. Mais nous voici devant une énigme nous-mêmes. Car reconnaissons-le, comment avaler ce miel élaboré par des abeilles établies dans une carcasse de lion. Pourtant, il y a certainement matière à nourrir notre foi. Et puis la Bible, elle est faite pour cela, pour nourrir la foi et pour aiguillonner notre réflexion jusqu'à nos jours. Les abeilles ont donc colonisé le cadavre du lion, y trouvant un abri à leur convenance. Comment est-ce qu'on pourrait formuler ça? Moi, je propose une vie inattendue, hors norme, à coloniser la mort. Qu'un lieu de destruction est devenu la matrice d'une nouvelle vie. Ça vous dit rien? Ça ne nous rappelle pas un petit quelque chose? Bien sûr. C'est un vrai cadeau du ciel. Et c'est ici qu'on peut entendre une histoire de Noël, de cadeau magnifique. Une histoire qui va de Marie de Nazareth, Bethléem, à Marie de Magdala, après la mort de Jésus, devant le tombeau. Une histoire qui va de la femme vierge au tombeau vierge. Jean nous le signale particulièrement, ce détail, au chapitre précédent, chapitre 19, et au verset 41, il nous dit que Jésus a été mis dans un tombeau neuf, où personne n'avait encore été mis. C'est là que Jésus va séjourner. Pour un temps court, mais c'est là. Donc il y a forcément un lien entre ces deux événements. La résurrection d'entre les morts de Jésus est en réalité sa véritable naissance. Paul écrit au chapitre 1er de l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, versets 3 et 4, il nous dit que Christ a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Proclamer qui est Jésus inclut sa mort et sa résurrection. Après l'histoire de Bethléem, au fond, les choses importantes se passent là. Et l'Église, pendant 3 ou 4 siècles, les 3 premiers siècles de son histoire, n'a pas fêté Noël, mais elle a fêté vendredi Saint et Pâques. C'est quand même un signe. On en fait trop. La crèche, les bergers, tout ça, c'est vrai, c'est dans l'Écriture. Mais tout ne s'arrête pas là. On ne passe pas à autre chose. Ce qui commence à Bethléem va se transformer, va devenir quelque chose d'habité par Dieu lui-même à partir de la résurrection de Jésus. Intéressons-nous à cette histoire incroyable et surtout à l'énigme qu'elle suscite. Permettez-moi d'y trouver une parabole magnifique qui, nous le verrons, éclaire à sa façon le récit de l'évangile de Jean que nous venons de lire. Comme Samson, Marie de Magdala éprouve le besoin d'aller voir le lieu du drame. Un retour, un flashback, en quelque sorte. Et une surprise l'attend, elle aussi, comme la surprise attend Samson qui découvre le miel. Marie va découvrir le sépulcre est vide. Il est ouvert et il est vide. L'énorme pierre a été roulée. Elle pense qu'on a commis un sacrilège, dérobé le corps de Jésus. Elle court rejoindre Pierre et Jean, qui accourent à leur tour pour constater l'absence du corps de Jésus. Il passe un sale quart d'heure, là, je trouve. Puis Marie, se penchant vers l'intérieur, on pourrait presque dire vers les entrailles de la terre, dans le sépulcre. Elle voit 2 anges, vêtus de blanc, avec ce détail parlant, ô combien, 2 anges assis là où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. La puissance dévorante de la mort a été déchirée en deux. La pierre a été roulée. Une vie totalement inattendue a colonisé ce lieu de mort. Le tombeau est devenu une vraie ruche. Ça entre, ça sort, ça court dans tous les sens. Il y a la célèbre course entre Pierre et Jean. Moi, j'aime beaucoup ces histoires. Il y en a un qui court plus vite que l'autre. Il arrive le premier, mais il n'ose pas rentrer. Puis il y a le deuxième, la Massé Ferguson, il rentre et il regarde. Une vie nouvelle a colonisé la mort. Même les anges sont là dans la position des chérubins recouvrant l'arche de l'Alliance. Il me semble impossible qu'au moment de la rédaction de son évangile, Jean n'y ait pas vu ce symbole. Vous savez, le propitiatoire, le couvercle de l'arche, il y avait ces 2 chérubins qui se faisaient face. Et Dieu avait dit à Moïse, c'est là que je me rencontrerai avec toi. C'est là que Marie rencontre son maître, son Seigneur, qu'elle a d'abord pris pour un jardinier. L'assassin est toujours le jardinier. Oh, pardon, Michel. C'était une chanson de je ne sais plus qui, là. Elle est complètement déconcertée. Femme, pourquoi pleures-tu ? Le silence de la mort est rompu par une parole d'accueil. Puis Jésus lui-même se présente à Marie. Mais la découverte qu'elle fait ne doit pas rester une expérience personnelle. Elle doit comprendre que par la résurrection de Jésus, Dieu fait naître une communauté qui sera porteuse de sa parole, du miel de sa parole, une nourriture pour la vie éternelle et qu'il destine au monde jusqu'à nos jours. Le texte hébreu lui-même nous suggère cette traduction. Je ne suis pas un hébraïsant chevronné, non, mais j'ai des lectures, si vous voulez. Pour désigner les saints, il y a un mot hébreu habituel, c'est gov. Mais là, curieusement, le texte a un autre mot. Il a le mot éda. Et le mot éda est toujours utilisé pour désigner une communauté d'êtres humains. Étonnant, non ? Marie de Magdala est invitée à être la première porteuse de cette parole, une parole nourriture, douce comme du miel, une parole qui donnera lieu à une communauté de disciples et qui donnera à cette communauté la force de poursuivre la route. Je ne sais pas si Samson était fatigué, mais le texte le suggère. Il dit qu'il a mangé ce miel et il s'est remis en route. Et ce n'est pas un peu ce que nous vivons. Nous goûtons le miel de la parole de Dieu pour nous aider à aller de l'avant, à ne pas faire du surplace, pour reprendre la route et aller à la rencontre des autres. Et c'est ce matin ce que nous faisons. Nous venons à la rencontre les uns des autres. Et Dieu a voulu cette communauté pour qu'elle aille à la rencontre de la cité des hommes, pour qu'elle leur apporte le miel, la douceur de la bonne nouvelle dans un monde de brutes. Et vous avez vu cette publicité, quelques grammes de douceur dans un monde de brutes. C'était du chocolat, je crois. Oui, en plus. Quelques grammes de douceur dans un monde de brutes. Un peu de miel qui sort du lion. Va trouver mes frères, dit Jésus. Marie de Magdala est invitée à être la première porteuse de cette parole, une parole nourriture, une parole qui donne à la communauté des disciples la force de poursuivre sa route, malgré tous les obstacles. Cette histoire de lion vaincu, devenu une sorte de ruche, une ruche qui dit oui. C'était la page de pub. Ping ! Cette histoire de lion vaincu, devenu une sorte de ruche, est donc un signe du salut de Dieu. Il dit la vocation d'abord d'Israël à être la matrice de l'Évangile destiné au monde entier à travers Jésus et par sa communauté de disciples. Nos racines sont juives. Nous avons, ils sont la racine qui nous porte. Hein, c'est le miel de l'Évangile nourrira en premier le juif, puis le païen. C'est ce que Paul dit dans ses épîtres. Le juif d'abord, nous les païens ensuite. Mais ce miel va nourrir tout le corps de l'humanité. Et je dirais même plus, tout le corps de l'histoire de l'humanité. Le cours de l'histoire sera influencé par la douceur de l'Évangile. C'est un message de paix. et cela jusqu'à la fin du monde. Matthieu, la fin de l'évangile de Matthieu, allez par toutes les nations, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce miracle nous concerne aussi très concrètement, parce qu'avec Dieu, ce qui allait nous dévorer peut devenir, après un temps, quelque chose qui nous nourrit et même qui nous réjouit par sa douceur de miel. Ainsi, ceux et celles qui ont été éprouvés dans leur vie de foi peuvent devenir des aides précieuses pour les autres, et notamment pour les plus jeunes. Là, je m'adresse aux vieux routiers ou aux vieilles routières, mais ne l'avez-vous pas expérimenté, des épreuves qui vous ont sacrément secoué et puis que vous avez pu surmonter par la grâce de Dieu, se sont transformées en expériences enrichissantes et qui peuvent aider les plus jeunes. Ça aussi, ça peut être un sens de cette histoire. Nous pensons parfois que tout est fini, que Dieu est absent ou silencieux, mais avec son aide, nous pouvons lutter, résister, prier, lui présenter nos supplications. Nous pouvons être rendus capables de vaincre les puissances qui nous menacent. La victoire de Samson sur le lion est aussi un signe encourageant pour lui. Ça le met en confiance avec une toute petite chose, enfin pour lui, comme de déchirer un lion en deux, pour accomplir les desseins de Dieu parmi les Philistins. Vous avez remarqué ce détail dans notre lecture, parce que la loi, enfin, disait que les enfants d'Israël ne devaient pas épouser des étrangères. Or, c'est Dieu lui-même qui provoque ça. Comme si Dieu prenait le contre-pied de sa propre loi pour parvenir à ses fins. C'est vrai qu'il écrit droit avec des lignes courbes, disait quelqu'un. Il y a des choses surprenantes. Et les parents de Samson ne savaient pas que c'est de l'Éternel que ça venait. Ils s'opposaient à ce mariage. C'était contre la loi. Il y a des points d'interrogation quand même dans la Bible, hein, à digérer pour Noël. Hein, ok. Le don de ces extraordinaires abeilles montre à Samson que Dieu l'accompagne, en dépit du désaccord premier de ses parents. Dieu est avec moi quand même. Une communauté de paroles, voilà ce que chacun de nous et chacune de nos églises sont appelés à devenir pour nos contemporains. Pour cela, il faut peut-être aussi déchirer en deux le lion qui est en nous, d'une certaine manière, non pour devenir une simple carcasse vide, mais pour être habité par l'expérience, nous laisser habiter par la parole offerte à quiconque en Jésus-Christ. Tel est le travail en nous, le travail que Dieu fait en nous pour notre bien, par son esprit, par sa parole, mais aussi par toutes les circonstances que nous traversons. Paul le dit dans Romains 8, verset 28, « Dieu fait concourir ensemble toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. » Même les choses qui, a priori, nous apparaissent difficiles à avaler même. Mais toutes ces choses nous arrivent pour notre bien. Alors, il ne s'agit pas de confort. Il ne s'agit pas de devenir maso. Quel est ce bien que Dieu cherche ? Eh bien, que sa parole soit répandue, soit glorifiée. Il est toujours, il reste encore le Dieu qui change les circonstances, qui transforme la puissance menaçante, dévorante de nos épreuves ou de la mort même pour la transformer en miel, en douceur de miel, en un miel fortifiant. Jésus nous invite ce matin encore à être des enfants de la parole de Dieu en mêlant intimement en une même personne la parole de Dieu et les paroles humaines. Il nous fait confiance. On pourrait encore aller plus loin, je ne vais pas trop prolonger, et affirmer que l'humanité entière, elle-même est aussi appelée par l'Évangile à devenir globalement une communauté de la parole plutôt qu'un lion rugissant. Là, il y a encore à faire, n'est-ce pas ? Mais c'est promis. C'est promis. Toutes les nations afflueront vers Jérusalem pour y recevoir la parole du Seigneur. Et c'est arrivé déjà à la Pentecôte. Et c'est la promesse qui nous porte à travers tout ce que nous entendons de la vie du monde, avec sa violence, avec sa sauvagerie, avec sa cruauté. Malgré ça, nous gardons confiance que la parole du Seigneur peut transformer les lions en ruches de miel. Il faut prier pour ça aussi. C'est pas une invitation à attendre que ça arrive, simplement. C'est une invitation, c'est un encouragement à prier, à coopérer avec Dieu dans cette transformation du monde. Les chrétiens ne sont pas... Il fut un temps où, pendant des années, dans nos églises, on disait « Oh non, non, le monde, il ne faut pas s'en occuper. Nous, on est dans le train de l'Évangile, on va au ciel, j'ai le billet dans ma poche, et puis j'attends de descendre du wagon, là-haut, au paradis. » Vous connaissez cette histoire ? Il y a quelqu'un qui arrive au paradis, puis il voit une tente de camping, là. Il crie d'enthousiasme, il dit « Génial !» Et Saint-Pierre lui dit « Attends, ne crie pas, tu vas les réveiller, ce sont des pentecôtistes. » Voyez ce que je veux dire ? Nous avons parfois tendance à nous occuper de nous, entre nous. Il y a un entre-soi qui se crée, et c'est parfois réjouissant aussi, hein, ça fait du bien. Non, ça ne fait pas du bien ce matin, là, par exemple, d'être ensemble, ça fait du bien. Ah. Mais voilà, il faut que Marie se fait envoyer. Va voir ailleurs si j'y suis. Eh oui, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment un sommet de l'Évangile. Jésus partage avec nous la communion du Père. Paul le formulera ainsi. Dieu est fidèle, il nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Mon Père, c'est votre Père. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comme j'ai prié, vous pouvez prier. Ouais. Comme j'ai accompli des signes de sa part, vous aussi. Mon Père, c'est votre Père. Mon Dieu, c'est votre Dieu. Quel miel délicieux pour celle qui pleurait. Samson se nourrit du miel comme nous le faisons ce matin en dégustant ce fruit de la communauté de parole qu'est la Bible elle-même. En fait, abeille en hébreu se dit Déborah. Et c'est, vous savez, le principe de l'hébreu, c'est repérer les racines, les consonnes. Déborah, D-B-R, c'est la même racine que Dabar, parole. Étonnant ce truc-là. Donc, nous sommes une communauté porteuse de dabar, de parole, de la bonne nouvelle. Samson va ensuite jusqu'à porter son témoignage aux Philistins sous la forme de cette énigme, il est vrai, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux, il se casse la tête là-dessus. L'énigme de Samson, en fait, les invitait à rechercher la source de la nourriture et de la vraie douceur. Elle les invitait à devenir eux-mêmes une douceur, une nourriture et une douceur, plutôt que de dévorer les autres comme le lion. On sait ce dont les Philistins étaient capables. Et là, malheureusement, il semble qu'ils soient passés à côté de cette compréhension, puisqu'ils vont menacer l'épouse de Samson de la brûler, sa maison, ses parents, si elle ne leur révèle pas le secret de l'énigme de Samson. Donc elle finira par obtenir ça, et tout ça va terminer en autre boudin, enfin, ça va se bagarrer partout. Ainsi va le monde. Jésus aussi donne parfois son évangile sous forme d'énigmes, de paraboles. Est-ce que tout est clair? Un jour, il a dit aux disciples, après avoir prononcé des paraboles, « Vous avez compris ces choses ?»« Oui, » répondent-ils. « Moi, je me dis toujours, ils ont bien de la chance. » C'est assez énigmatique par moments, il faut reconnaître. Seuls ceux qui renoncent à la férocité du fauve pour adopter la douceur de l'agneau seront capables de goûter la douceur de la parole de Jésus. Voyez-vous, ça se comprend non pas avec sa tête, mais avec son cœur et à partir d'une attitude disponible. Jésus a parlé d'être des petits-enfants. Voilà. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Voilà. Soyons encore reconnaissants ce matin de ce que le Seigneur nous encourage. Même s'il y a des os, même s'il y a des arêtes dans le poisson, je me souviens d'un prédicateur qui disait « Quand vous lisez la Bible, c'est comme quand vous mangez du poisson. Des fois, il y a des arêtes. Mais ne les avalez pas, laissez-les tranquilles. Peut-être qu'un jour, elles vont se transformer en poisson. Plus tard. Joyeux Noël. Ah, c'est curieux, d'habitude, on dit « Amen ».